Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo. Une fois toutes les deux semaines, on se retrouve, on se réunit entre passionnés et entre amis. Ah mais dites-moi, ça rime, c'est magnifique, je suis Patrick Béja et on va vous parler aujourd'hui de gros jeux, de grosses sorties de cette fin d'année. Death Stranding évidemment, Call of Duty Modern Warfare également et puis des news sur des gros changements chez Shadow qui pourraient devenir intéressants, des changements chez Sony du côté de PlayStation, etc., etc. Même chez Steam, il y a plein de choses qui se passent et pour nous parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir d'une part mon ami Maïté slash Escarina. Comment ça va, Esca?
Ça va très bien, Patrick, et toi?
Bah écoute, moi je suis en forme, je suis rafraîchi, revenu de la BlizzCon, prêt à continuer à parler de jeux vidéo tout le temps, donc c'est parfait. Et de l'autre côté, l'ami Florian Welter, alias le père Fidalbion. Comment ça va, Florian?
T'as réussi du premier coup. Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très content de revenir dans le rendez-vous jeu. Ça faisait un petit moment.
C'est vrai, on t'avait reçu, on avait eu le plaisir de te recevoir il y a, je ne sais pas, un an et demi, quelque chose comme ça.
Un an et demi, quelque chose comme ça, oui.
Avant que tu n'intègres l'équipe des petits chenapans de Gamekult.
Ça leur va bien.
Et que tu ne, donc, nous livres le test de Death Stranding qui t'a beaucoup plu. Donc, on va pouvoir en parler, j'ai très hâte d'entendre ce que tu as à dire.
Eh ben très cool, j'ai très hâte d'en parler avec toi aussi, avec vous.
Magnifique. Avant de se lancer, je voudrais dire quand même deux choses. D'une part, si vous n'avez pas écouté notre épisode spécial BlizzCon 2019, je vous encourage à aller le faire. C'est l'épisode juste avant qu'on a fait depuis la conférence avec Julien, Manu, l'autre Julien. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble et on a débattu et discuté de tous les sujets qui ont fait l'actualité à la BlizzCon. Évidemment, les jeux Diablo 4, Overwatch 2, Hearthstone Battlegrounds, World of Warcraft Shadowlands, il y avait beaucoup beaucoup de choses à se mettre sous la dent et aussi la controverse qui a continué à évoluer là-bas. Donc si vous voulez entendre parler de tout ça, n'hésitez pas à revenir un épisode en arrière pour celui sur la BlizzCon. Et à côté de ça, je voudrais également remercier tous les auditeurs qui soutiennent l'émission, qui soutiennent financièrement le rendez-vous jeu, puisqu'elle est désormais finançable par Patreon. Vous allez sur patreon.com/rdvjeu et vous pouvez soutenir l'émission et avoir des petits bonus bien sympathiques. Aujourd'hui, je voudrais remercier les premiers de ceux qui ont commencé à soutenir l'émission, à savoir Elder, Janotti Muller, Jean-Hugues Stockmans, Eduardo Fuentes, Sirdek, Dr. Cox, UFR, N20 Cyber, Christophe Perrette, Penpen et Benjamin Moreau. Merci à vous tous et à tous ceux qui ont rejoint l'équipe des Patriotes, qui non seulement ont le plaisir de soutenir l'émission et la fierté, j'espère, mais en plus des petits bonus bien sympathiques, dont des éditos et une série d'éditos sur la semaine BlizzCon. J'en ai fait un par jour pendant toute la semaine pour pouvoir compter le voyage, les prédictions, les réflexions sur tout ça. Donc, vous aurez tous ces petits bonus en plus sur le flux privé des Patriotes si vous soutenez l'émission. Les instructions sont sur Patreon directement pour s'abonner dans votre app de podcast. Donc vous aurez tous les éditos comme ça. C'est un petit bonus bien sympathique pour ceux qui choisissent de la soutenir. Donc voilà pour les remerciements de rigueur et les grosses bises aux Patriotes. Et on va commencer l'émission elle-même avec le gros morceau de cette semaine et de cette fin d'année, je pense, pour beaucoup d'entre nous. C'est le retour du prophète Kojima dans le jeu vidéo après son bannissement de Konami et de nombreux doutes sur la qualité de ce qu'il était en train de nous pondre et de ses délires de créateur un petit peu fou. Et il semblerait, d'après, je pense, la plupart des retours que nous avons sur son jeu Death Stranding, qui d'une part est effectivement sorti en 2019, ce que moi, ce dont je doutais aux premières annonces, et puis surtout, le jeu a l'air plutôt bon, voire très bon. Pour résumer un petit peu les attentes, Kojima, sorti de Konami, dont il avait fait une grosse part de la célébrité et de la fortune avec la série des Metal Gear, il a été banni et récupéré par Sony et par ses amis dans le monde du jeu vidéo pour former un studio. Et comme je le disais, moi et d'autres étaient assez sceptiques de sa capacité à réussir un jeu et à réussir un jeu sans se laisser un petit peu trop aller à ses tendances de créateur, puisque là, il n'aurait plus les brides d'un producteur ou d'une boîte qui voulait qu'il sorte quelque chose derrière. Et il semblerait qu'on se soit tous trompés, puisque non seulement, comme je le disais, le jeu est sorti, mais il a l'air pas mal. Les premiers trailers étaient assez incompréhensibles, les seconds et les troisièmes aussi, et donc il a fallu attendre le jeu pour savoir de quoi il s'agissait. Bon, je vais arrêter de jouer du suspense et donner la parole à Florian. du coup, toi, tu l'as testé, tu y as beaucoup joué, et le jeu... Et bon, le pari est réussi pour Kojima ?
Alors, je voulais juste revenir d'abord sur ce que tu avais commencé à dire en disant savoir s'il était parti dans ses délires de créateur. En fait, vous n'aviez pas tout à fait tort. En revanche, ce n'était pas une mauvaise chose. C'est-à-dire que Death Stranding est avant toute chose, avant que ce soit un bon jeu ou un mauvais jeu, c'est un jeu d'auteur. Et c'est un jeu d'auteur qui est rare parce que c'est un jeu d'auteur AAA. Et à l'heure qu'il est, c'est un des rares exemples qui existent. C'est souvent ce genre de parti pris, ce genre de vision sont souvent l'apanage, on va dire, des jeux indépendants qui sont obligés de se baser là-dessus, de proposer quelque chose de très différent pour sortir du lot et pour exister finalement. Les AAA, en revanche, ont tendance à verser dans quelque chose de beaucoup plus consensuel et pour plaire au plus grand nombre. Et c'est ça qui est très important, c'est que c'est la première chose que je veux rappeler, que j'ai rappelé un petit peu partout, c'est Death Stranding ne conviendra pas à tout le monde, ça c'est sûr. C'est un jeu qui n'est pas universel et qui ne se veut pas universel, qui ne veut pas plaire à tout le monde, et c'est aussi ce qui fait sa grande force à mes yeux, c'est que c'est un jeu un peu absolu, qui assume complètement sa vision, son message et ses thématiques, et ça en fait un jeu rare, et en même temps, il réussit, pour répondre à ta question, il réussit vraiment son pari dans ce qu'il propose, ouais.
Du coup, bah, c'est une précision importante. Avant de te reposer la question pour savoir un petit peu ce qu'est ce jeu, parce que je vous avoue que moi, je sais toujours pas, et pourtant j'y ai joué pendant une heure
c'est
et quelques,
normal.
Mais ouais, c'est normal. Je vais poser la question juste pour le plaisir à Maïté. Est-ce que, tu suis l'actu du jeu vidéo, est-ce que tu as idée de ce qu'est Death Stranding ou pas, en ayant suivi de loin ?
Alors, très rapidement, c'est un jeu de livraison UPS, non ? C'est pas ça, là ? Alors, bon, faut savoir que je suis pas une grosse joueuse des jeux de Kojima, je suis pas une grande fan des Metal Gear Solid, enfin, c'est pas le type de gameplay que j'aime beaucoup. Le dernier que j'ai fait remonte à la PlayStation, donc ça fait très très longtemps.
On est un petit peu dans le même cas, là. Je me fais jeter des tomates à chaque fois qu'on parle de Kojima, parce que je suis pas fan de ces Metal Gear depuis le premier, et c'est un petit peu sacrilège de dire des choses comme ça.
Ah non, mais après, quand je dis que je suis pas fan, c'est vraiment personnel, c'est que c'est pas le type de jeu sur lequel je prends du plaisir. Par contre, je trouve que le personnage est hyper intéressant, notamment depuis sa séparation avec Konami, on a vu tout ce qui s'est passé, c'était assez passionnant. Et du coup, je suis Death Stranding avec pas mal d'intérêt, donc j'attends de voir ce que Florian va nous en dire, j'en suis très curieuse, parce que c'est peut-être le premier jeu de Kojima auquel j'ai vraiment envie de jouer par curiosité. Comme tu dis, c'est un jeu d'auteur. Alors, mes questions, ça va être, est-ce que ça se prend pas trop au sérieux, etc. Donc je suis curieuse de voir ce que tu vas avoir à nous dire, parce que j'ai vraiment un vrai intérêt pour ce jeu.
On est dans le même cas, même si j'étais pas du tout gagné à la cause de Death Stranding, les trailers et ce qu'on en a vu m'a beaucoup intrigué, et du coup j'ai eu envie de savoir de quoi il en retournait. Du coup, livraison UPS, c'est ça le jeu ?
Ouais, on va pas se le cacher, hein. De toute façon, alors pour revenir sur le fait qu'on ne savait pas jusque-là à quoi ressemblerait le jeu. C'est encore une fois, c'est un trait de Kojima qui, c'est pas la première fois, il dit qu'en gros la communication traditionnelle autour des jeux vidéo, ça le gonfle, et qu'il trouve ça un petit peu triste, un petit peu navrant, et que du coup il essaye de faire des choses différentes. On peut se rappeler pour Metal Gear Solid 5, il avait inventé ce personnage et ce faux studio de Joachim Mogren pour dire que The Phantom Pain n'était pas un Metal Gear, etc. Là c'est pareil, il a essayé en gros de vraiment garder le mystère jusqu'au bout sur ce qu'était le jeu, jusqu'au bout, parce que je dis jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, parce que Le dernier trailer qu'il a sorti, le trailer de lancement, était absolument à contre-pied de ça. Il a livré énormément d'éléments. Moi, j'étais un peu dévasté. Donc voilà, c'est normal qu'on ne savait pas ce que c'est. Jusque-là, c'est en effet un jeu de livraison. Je vais essayer d'en... C'est très difficile d'en parler sans spoiler.
Bah oui, ne spoilons pas, oui, c'est vrai que...
Non, on va pas du tout spoiler, préciser. C'est un exercice auquel je me suis déjà prêté la semaine dernière dans l'émission de GK, donc j'ai à peu près le discours qu'il faut. C'est un jeu qui se déroule dans un monde post-apocalyptique, mais c'est une vision très personnelle du post-apo selon Kojima. C'est un truc qui n'a rien à voir avec le post-apo nucléaire ou le post-apo apocalypse zombie, des choses comme ça. C'est un monde dans lequel il s'est passé une catastrophe. La cassette catastrophe, c'est le Death Stranding. Donc le Death Stranding, c'est le nom du phénomène qui s'est passé. Il y a plusieurs dizaines d'années, visiblement. On ne sait pas très bien à quel moment on se situe dans le jeu, mais voilà, on sait que c'est dans un futur proche qu'il y a eu cette catastrophe, le Death Stranding, qui a fait énormément de pertes civiles aux États-Unis, puisque le jeu se déroule aux États-Unis, et qui a fait que, qui a complètement détruit le réseau, l'État, la société en tant que telle, les infrastructures de communication, les infrastructures de transport, etc., et qui a complètement éclaté les gens, en fait. C'est-à-dire que les gens se sont mis dans des abris, dans des villes fortifiées, se sont toutes recroquevillées les uns sur les autres, pour la bonne et simple raison qu'ils ne peuvent plus sortir. Aller dehors, c'est dangereux, notamment à cause de l'apparition de ces entités qu'on a pu voir plusieurs fois dans les trailers, qu'on appelle les échoués, donc ces espèces de fantômes, ces espèces de spectres qui apparaissent à certains endroits du monde, mais aussi à cause de la pluie qui tombe sur les États-Unis. C'est une pluie un petit peu particulière, là aussi on l'a vu dans les trailers, donc je ne spoil rien. C'est une pluie qui s'appelle la Timefall et qui fait en fait vieillir très rapidement tout ce qu'elle touche, si bien que en fait voilà, sortir à l'extérieur est devenu une chose extrêmement dangereuse et une chose à ne pas faire, et du coup les gens se sont recroquevillés sur eux-mêmes dans leurs abris anti-nucléaires, dans leurs villes fortifiées, etc. Plus personne, la société en tant que lien social entre les humains a complètement disparu.
Je comprends pourquoi tu le décris comme ça, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre moyen de le décrire, mais ouais. J'avoue que même moi, avec quoi, 1h30, 2 heures de jeu, donc allez, on va dire 50 minutes de trailer et 20 minutes de cinématique et 20 minutes sur la manette, mais le monde qu'il a créé, ouais. On n'y comprend rien, mais c'est absolument fascinant. Et ça confirme ce qu'on voyait dans les trailers. C'est ouais. Un truc qu'on a, qui nous happe d'une manière que je n'attendais pas. Parce que moi, je ne suis pas du tout client de ce genre de délire un petit peu... comment dire, j'ai l'impression que c'est un petit peu de la masturbation intellectuelle, quoi. C'est genre, ah, alors là, imagine, on va faire un truc avec des silhouettes dans le noir et une pluie bizarre et des trucs... Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, sinon ça me frustre plus qu'autre chose. Et là, je vais te poser la question de savoir s'il y a quelque chose derrière au final, juste oui ou non, parce que j'ai envie de savoir, mais même sans, j'avoue que c'est tellement... C'est comme un tableau qui est tellement beau que je l'admire sans avoir forcément besoin de plus, quoi. C'est une... et c'est en ce sens-là que l'intention d'auteur joue, je pense. Il y a quelque chose de satisfaisant et d'exaltant rien qu'à voir l'art... En anglais, on dirait « the artistry »,
la direction artistique,
l'accomplissement artistique qui est même regarder 10 minutes de jeu, on est tout de suite séduit, je crois.
Alors, c'est une partie du truc, ouais. Je t'avoue que je suis pas très fan de l'expression masturbation intellectuelle qu'on a tendance souvent à lancer à tort et à travers pour des jeux un petit peu différents. Mais il pourrait probablement rentrer dans cette catégorie-là, je te l'admets complètement.
Me surprend, c'est que moi, peut-être que j'abuse de cette expression.
Mais là, de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont le dire, en fait.
Ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression, c'est pas un truc que je dirais, en tout cas à ce stade, de ce jeu-là. Alors que j'aurais été, tu vois, à Kojima, moi, c'est mais, genre, mais ok, a, la diva, c'est bon, quoi.
Il y a clairement ce côté-là, parce que c'est un univers ultra fouillé, c'est un univers surtout qui a un message. Je voulais juste finir sur le truc que je disais avant, pour pouvoir faire le lien avec ce que tu dis. C'est que dans cette société complètement éclatée qui est revenue à un côté sauvage d'un point de vue extérieur, des paysages, etc., il y a juste des personnages qui constituent encore le dernier lien entre les gens, qui sont des livreurs. qui utilisent juste leur force physique pour transporter des paquets d'un abri à l'autre. Des paquets que les survivants ne peuvent pas, des denrées, des machines, des choses comme ça, qu'ils ne peuvent pas avoir par eux-mêmes sur place. Et donc, ces livreurs, parmi ces livreurs, il y a un certain Sam Porter Bridges, donc, qui est le héros du jeu, qui est incarné donc, par Norman Reedus. Et on va incarner ce héros, pas dans son quotidien de livreur, voilà, parce que c'est la question aussi, même si le jeu est clairement un jeu UPS où on va faire des livraisons, ce garçon-là, on va lui confier une mission. Puisqu'il va y avoir, il y a un nouvel embryon d'État qui se construit, qui ne s'appelle plus les USA, mais les UCA, les United City of America, donc les villes unies d'Amérique, qui a un espèce d'embryon de nouveau gouvernement, et on va confier à Sam, pour différentes raisons que je préfère garder dans l'ombre, la mission de reconnecter la côte Est à la côte Ouest, des installations qui ont déjà été construites par le passé par une première expédition, mais qui ne sont pas connectées d'un point de vue réseau, de reconnecter ces installations entre elles. Donc en fait, Death Stranding, ça va être une espèce de Odyssey to the West de Sam, sachant que le terrain de jeu, qui est un monde ouvert divisé en deux énormes parties, est censé reproduire voilà, finalement les États-Unis à une toute petite échelle, bien entendu. On n'est pas du tout dans le délire de The Crew, par exemple, qui reproduisait ça au kilomètre carré près. Ceci étant dit, en effet, il y a un truc... Bah, la vision d'auteur, en fait, elle se passe à tous les niveaux. Toi, tu as parlé du premier niveau qui est le plus évident parce que c'est celui qui va toucher le spectateur aussi bien que le joueur, que quelqu'un qui passe juste à côté de l'écran. C'est qu'en effet, du point de vue artistique, il y a quelque chose de complètement hypnotisant dans ce monde qui est sinistre, assez lugubre, qui a été inspiré visuellement des paysages islandais. Donc on a quelque chose de très froid, de très humide, ces espèces de paysages modelés par la lave, par les roches volcaniques, etc. Constamment surmonté d'un toit de nuages gris, voilà, il pleut souvent, c'est très triste comme paysage, en fait ça va avec le reste du ton du jeu, mais en même temps il y a une beauté mélancolique dans ce truc là qui est assez évidente, et en effet il y a ça. Et ensuite, pour revenir au cœur de jeu, donc qui est la livraison, en fait ce qui est très intéressant, c'est que Kojima prend un truc qui est détesté à peu près par tous les joueurs dans tous les jeux vidéo, qui sont les quêtes FedEx, donc qui consistent à prendre un objet et à l'amener à un autre personnage, qui sont les quêtes les plus mal écrites du monde, souvent pour ne pas avoir à écrire d'ailleurs. Et en fait, il prend cet objet vidéoludique-là, qui est la quête FedEx, et il en fait un truc complètement transcendant, en fait. Il arrive à en refaire un gameplay complet autour de ça, et le simple fait de porter un paquet d'un point A à un point B devient un enjeu. Enfin, devient un truc complètement fou, en fait. C'est ça, et c'est là, pour moi, le premier coup de génie du jeu, quoi.
Et du coup, est-ce que t'as des combats, des affrontements
T'as des combats très ponctuels. Alors, d'une part, tu vas rencontrer par moments les fameux échoués, donc ces entités spectrales dont on ne connaît pas exactement l'origine et qui sont un peu réparties partout dans le monde du jeu. Alors cela, ça va plutôt s'apparenter à des phases d'infiltration, même si tu vas avoir des moyens de leur répondre à un moment par un certain équipement. Là encore, je reste vague volontairement. Mais ça s'apparente un petit peu à des infiltrations. Et puis à d'autres moments, tu vas rencontrer aussi, pareil, de manière très très sporadique, d'autres livreurs, des gens qui sont devenus un petit peu fous suite au Death Stranding. Il faut bien comprendre qu'en fait, le monde du jeu se déroule plusieurs dizaines d'années, donc comme je disais, après le Death Stranding, et que du coup, la notion de lien social a complètement disparu. Et en fait, pour ces gens-là, la livraison est devenue un espèce de rituel, c'est-à-dire c'est tout ce qui reste entre les gens. Et du coup, il y a certains livreurs qui sont devenus, donc ça, ils s'appellent les mules, sont devenus un petit peu accros à cette notion de lien social, de livraison, de reconnaissance, en fait, tout simplement. Et en fait, ils vont essayer de te voler tes paquets dans la mesure du possible. Quand tu passes pas loin d'eux, ils peuvent te scanner et essayer de choper leurs paquets. Donc là, il y a des combats à certains moments, mais c'est vraiment une toute petite partie du jeu, les combats. C'est la partie la plus nulle, d'ailleurs, il faut bien le dire. C'est la partie la plus ratée. Moi, à mon sens, ils n'étaient même pas légitimes, en fait, dans le jeu. Ils n'avaient pas forcément leur place.
C'était pas nécessaire, ouais. C'est ça qui est fou quand on parle de ce jeu, parce que immédiatement, nous, petits esprits non éveillés au génie de Kojima, on va immédiatement se demander, et c'était ma première question, hein, comme Escarina, est-ce qu'il y a des combats, est-ce que machin, qu'est-ce que c'est que le gameplay? Mais en fait, ce que je comprends, après avoir testé un petit peu et beaucoup en avoir entendu parler, c'est que les quêtes FedEx en elles-mêmes, c'est-à-dire le fait de se déplacer, est le gameplay principal. Et ce qui est Exactement. Vraiment fort, c'est que Kojima a réussi à... La raison pour laquelle on n'aime pas les quêtes FedEx, c'est parce qu'en fait, c'est une sorte de court-circuitage de gameplay. C'est parce qu'il n'y a pas
parce
de gameplay dans les quêtes.
Rien. Voilà. Parce que ça implique rien.
Alors là, que là...
Il arrive à faire un truc fantastique. Alors, comment il le fait ? C'est ça qui est intéressant. C'est comment il le fait ? C'est qu'en fait, il arrive à faire de chaque portage d'un point A à un point B, de ramener ce fameux colis, en fait, une vraie odyssée, un vrai voyage, un truc pénible, pénible dans le sens bon du terme, c'est-à-dire qu'il faut un obstacle qu'il faut surmonter plutôt. C'est-à-dire, ça passe déjà par, tu l'as probablement vu toi Patrick, dans le décor, il y a énormément de relief dans Death Stranding. Le paysage de Death Stranding est absolument époustouflant pour ça, et c'est d'ailleurs, ça va carrément dans le prolongement de ce qui a été fait sur Metal Gear Solid 5, c'est-à-dire de cacher tout un level design dans un décor naturel. Dans MGS5, ça avait été le désert d'Afghanistan et ça avait été la jungle africaine. Ces deux trucs-là, qui étaient simplement des paysages, en fait, révélaient une richesse de level design complètement folle. Là, c'est exactement pareil. Et en fait, le premier enjeu de gameplay dans Death Stranding, et tu l'as très bien dit, c'est se déplacer. C'est-à-dire que Sam, en fait, la première chose à laquelle le joueur doit penser en contrôlant Sam, c'est où est-ce qu'il va poser les pieds. Tout simplement parce qu'il y a des terrains qui sont en pente, il y a des terrains qui sont glissants, il y a des terrains qui peuvent le faire tomber, il y a des rivières à traverser qui ne sont pas forcément évidentes, il va falloir gérer son endurance, il va falloir gérer la façon dont on monte certaines pentes, il va falloir gérer
Donc
parfois...
Son équilibre, son centre de gravité...
Son équilibre, exactement, l'escalade, le fait d'escalader des falaises, parfois, par moments... prendre des bourrasques dans un défilé rocheux, devoir gérer le vent qui tourne et donc qui bouscule Sam. Et par-dessus ça, il y a pourquoi en fait, quel est le danger finalement de tout ça ? C'est pas envers Sam, parce que Sam finalement il va tomber, c'est pas très, très grave, il est jamais mis en danger par le fait de livrer vraiment ses paquets. Ce qui est mis en danger, c'est ses colis en fait, c'est la précieuse livraison. C'est-à-dire qu'en fait, on va donc prendre soit des missions, soit trouver des paquets qui sont abandonnés, etc., et choisir de pouvoir les ramasser. Les paquets à transporter se présentent sous des valises en métal ou des mallettes en métal comme ça, de différentes tailles, donc S, M, L et XL, que Sam va pouvoir donc mettre sur son dos, sur un espèce de harnachement qu'il a dans le dos, ou aussi les attacher à sa combinaison, donc sur ses bras, sur ses hanches. Et déjà là, il y a un aspect, il y a déjà des choix qui arrivent, c'est-à-dire est-ce que il va falloir gérer le poids. Il va falloir gérer l'équilibre, c'est-à-dire qu'empiler des gros paquets dans son dos, évidemment, ça ne va pas se comporter pareil que s'il avait tout juste 2 valises ou 4 valises relativement légères. Il va falloir aussi gérer la répartition pour un bon équilibre, et puis tout simplement gérer un petit peu la tâche, c'est-à-dire que Kojima arrive à faire un truc très intéressant, c'est que la distance qui existe entre les gens dans l'univers du jeu, il en fait quelque chose de matériel dans le jeu, c'est-à-dire que la distance, c'est vraiment un truc important. C'est, je dois aller au point B, c'est loin, j'y vais à pied dans la majorité du temps, hein. Il y a un moment où il va y avoir des véhicules, mais c'est plutôt ponctuel, la plupart du jeu se fait à pied, et du coup on va se dire, tiens, je dois aller là-bas, est-ce que je prendrais pas un paquet en plus, parce que je dois le livrer aussi, je dois le ramener, ça serait pratique, et en fait il va falloir faire le choix, il va se dire, est-ce que ce paquet en plus il va pas m'encombrer, et si je me fais attaquer, qu'est-ce qui se passe ? Ah mais en plus il est fragile, donc je peux pas trop le balader, là je sais qu'il y a une rivière, il faut pas que je l'immerge, comment est-ce que je fais ? Il y a tout ça qui va se mettre en place autour du simple fait de livrer une cargaison, en fait.
Mmh. Et même le fait de... Tu parlais de terrain qui est plus ou moins difficile, encombré. Ouais. Vraiment, là où on va devoir marcher, on peut scanner l'environnement et on va voir, alors à tel endroit, il y a des roches qui vont faire, ça fait une petite icône rouge, donc c'est plus difficile de marcher. Là, c'est vert, ça va pas être trop dur. Et puis, on doit s'équilibrer en appuyant sur les gâchettes droite ou gauche, rééquilibrer d'un côté ou de l'autre. Il y a vraiment des éléments de gameplay très... La raison pour laquelle je le précise, c'est que c'est des éléments de gameplay très terre-à-terre. C'est vraiment, on appuie sur les boutons de la manette à tout moment, ouais. Quoi.
En fait, si admettons on est déséquilibré côté gauche, il va falloir appuyer sur R2 donc pour compenser côté droit. Si on veut assurer son paquet, donc en appuyant sur les deux gâchettes, clac, Sam va mettre les mains sur les sangles de son sac à dos, il va ralentir l'allure, mais il va appuyer, en gros, il va renforcer ses appuis, donc par exemple pour traverser une rivière, donc clac, il va essayer d'être centre de gravité plus bas, de marcher comme ça. Il y a plein de choses qui vont être à prendre en compte et qui font que, comme tu le dis, en fait, là où la quête FedEx c'est juste n'implique rien du point de vue du joueur, du point de vue gameplay, du point de vue... là en fait il y a tout un tas de données à prendre en compte et de choses à effectuer. En effet, comme tu le disais, il y a le scan, donc Sam se trimballe un petit bras robotisé, un petit bras Android qui s'appelle Lord Adek, qui lui permet notamment pas que, mais notamment de scanner le terrain. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point, assez vite, on n'en a plus besoin et on apprend à reconnaître à l'œil les terrains où on peut marcher, les terrains où on peut pas, à calculer son itinéraire, à dire « Ah bah là, je peux passer, je pense que ça marche, ah bah là, je vais avoir besoin d'une corde. » et assez vite, en fait, le côté FedEx s'efface derrière ça, en fait. Et il y a quelque chose voilà, du statut vraiment, pour moi, du grand voyage, de la grande épopée qui se met en place assez vite, quoi.
Du coup, bon, ça, c'est tout l'aspect gameplay terre-à-terre au moment, ouais. Le moment-to-moment gameplay. Il y a, j'ai l'impression aussi, ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti dans les premiers moments de jeu, il y a un peu un héritage de Breath of the Wild, j'ai l'impression aussi. Il y a ce... Est-ce que tu le confirmes ou est-ce que c'est...
Alors oui, tout à fait. Dans un truc qui est... En fait, c'est Death Stranding, de la même façon que l'était Breath of the Wild, c'est une réinterprétation du monde ouvert. Le monde ouvert, c'est un truc qu'on a eu, qui est né... Enfin, le monde ouvert moderne, on va dire, avec GTA 3, probablement, et qu'après, plein d'autres licences ont su se réapproprier, mais souvent sous la même forme. Breath of the Wild a marqué ou probablement l'un des plus gros changements de ces dernières années dans la réinterprétation du monde ouvert, notamment un peu dans les mêmes idées que Kojima sur la distance, la notion de solitude aussi, de vide. On n'est pas face à un monde ouvert, parc d'attractions à la Ubisoft où il y a des trucs, il y a 45 trucs à faire au kilomètre carré. La question d'être seul face à la nature, tout ça, c'est des trucs en effet que Death Stranding reprend et reprend excessivement bien. Ce qui a aussi beaucoup, puisqu'on parle d'héritage, finalement, c'est qu'on va retrouver énormément de choses de Metal Gear aussi, et notamment de Metal Gear Solid 5, je le disais dans le level design, mais aussi évidemment dans la narration, etc. Et dans la façon dont tu vas, dans l'écriture, dans la façon dont tu vas construire ces personnages, mais aussi dans les animations, enfin plein de choses comme ça. Donc en effet, c'est un jeu qui transporte, qui porte avec lui les traces d'autres jeux, mais oui, Breath of the Wild pour moi est une des influences plus qu'évidentes pour Death Stranding, bien entendu.
Alors, avant de te poser la dernière question sur l'histoire, il y a un autre truc qu'il faut évoquer, c'est cette interaction qu'on a compris en filigrane entre les joueurs, dans cette sorte de multijoueur asynchrone où on voit des éléments qui ont été laissés par d'autres joueurs. Sans trop en dire là-dessus non plus, est-ce que c'est un élément important du jeu? Est-ce que c'est un élément qui apporte quelque chose ou est-ce que c'est... un gadget pour dire qu'on l'a mis, quoi.
Non, c'est pas du tout un gadget et c'est parfait parce que ça m'amène vers un truc que je voulais absolument vous dire. C'est qu'en gros, Death Stranding, c'est un jeu qui a donc cette thématique qui est sur les liens entre les gens, la façon dont ils se connectent et la façon dont on les coupe aussi et comment on vit sans, etc. Et cette thématique, ce message, parce que c'est vraiment un jeu... politique, Death Stranding, il y a question par exemple de murs entre les gens, de gens qui construisent des murs entre les gens, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, il y a question de messages de social, écologique, et en fait là où le jeu est aussi brillant, c'est qu'il arrive à filer son message dans toutes les strates du jeu, c'est-à-dire que le gameplay lui-même passe ce message, l'histoire bien entendu, mais aussi le multi. C'est-à-dire que le multi, il va clairement dans le sens de cette reconnexion, même elle est même factuelle, puisque là, les joueurs sont connectés littéralement par le réseau. Donc, c'est absolument pas gadget, parce que ça va dans le sens du message du jeu. Et donc, comment ça se matérialise? C'est pas du spoil, parce que ça arrive très vite, hein, globalement, dans le jeu. En gros, c'est si on accepte de se connecter, bien entendu, ce n'est absolument pas obligatoire. À chaque fois qu'on découvre une nouvelle zone, à chaque fois qu'on reconnecte un nouveau nœud, donc une nouvelle installation, plus on va vers l'ouest, à chaque fois on reconnecte un nouveau nœud de réseau, et on va voir apparaître dans la zone géographique concernée les constructions des autres joueurs. Parce qu'en fait, Sam, au cours de son voyage, va pouvoir construire de petites structures temporaires. Donc que ce soit par exemple une corde d'escalade plantée au sommet d'une falaise, que ce soit par exemple un coffre, qui va abriter les colis que vous pouvez pas livrer, par exemple, que vous avez récupéré en pleine mature, mais vous avez pas le temps pour le moment, voilà, je vais les mettre à l'abri plutôt qu'ils s'abîment et que je les perde, etc. Ça peut être aussi des moyens de transport, ça peut être des abris contre la timefall un petit peu plus tard, des choses comme ça. Et tout ça, en fait, le jeu va les faire apparaître dans les parties des autres joueurs. C'est-à-dire que si moi j'ai posé une corde en haut d'une falaise, il y a des autres joueurs qui vont pouvoir s'en servir derrière moi. Et qui vont du coup avoir leur voyage un petit peu facilité par cette installation que j'ai fait. C'est un coup de main en fait. Et le jeu réussit très bien ce côté peut-être un petit peu candide, mais de genre on se donne la main pour tirer dans le même sens. L'idée, c'est de dire bah vous êtes pas le seul livreur dans le monde, et regardez, on se fait des clins d'œil, les gens vont pouvoir s'entraider en fait.
Et ça donne pas des choses aberrantes avec des cordes qui pendent d'un peu partout?
Non, parce que alors c'est une très bonne question et c'est extrêmement bien fait. La technologie multi du jeu est extrêmement bien fichue, tant le fragmentage du nombre de joueurs niveau des serveurs, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas tout le monde entier sur le même serveur et dans notre partie, donc on n'a pas des dizaines de milliers de cordes qui apparaissent tout d'un coup comme ça. En fait, c'est extrêmement bien structuré, ça arrive par batch relativement limité, de façon à ce que ça fasse un minimum naturel. C'est extrêmement bien foutu en termes de progression, c'est-à-dire qu'en fait n'importe quel joueur, suivant où il en est, trouvera un petit peu des aides et pourra lui-même poser des aides pour les joueurs qui viennent derrière lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à coup des joueurs qui ont mis des trucs qui n'ont rien à voir, il est 10 heures en avance sur le joueur, il lui casse complètement sa partie en lui projetant une amélioration qui va complètement lui casser sa progression. C'est extrêmement bien foutu de ce point de vue-là.
Du coup, j'imagine qu'il y a un système de crafting ou de procuration d'objets. Une fois que tu utilises un objet que tu laisses pour les autres joueurs, il quitte ton inventaire. Donc c'est une sorte de un petit sacrifice que tu fais ou c'est pas le cas, tu l'as quand même.
Alors en effet, non, c'est vraiment, il y a un truc de pur altruisme en fait dans le jeu, et ça, encore une fois, ça va dans le sens de la thématique. Par exemple, on peut mettre dans les fameux coffres qui existent à la fois dans les abris que vous allez rencontrer dans le jeu, mais aussi dans la nature, vous allez pouvoir construire des coffres. Chaque interaction avec un coffre, par exemple, peut être est divisé en deux. Donc on a un coffre privé qui ne concerne que nous, donc dans lequel on pose des affaires qu'on peut récupérer ensuite. Par contre, il y a aussi un coffre partagé dans lequel on peut mettre des choses pour les autres joueurs. Donc par exemple, si on a des cordes en trop, des choses comme ça, on a envie de les donner pour les autres, et ben on les pose là, et les autres joueurs qui sont sur le même serveur que nous pourront les choper absolument gratuitement. De la même manière, les structures qu'on construit dans le décor, elles sont posées là. Évidemment, elles sont pour les autres, mais oui, c'est fait quoi. Il n'est pas question de récupérer ces structures. Le crafting n'est pas central dans le jeu, hein, honnêtement. C'est jamais un truc qui pose problème à ce niveau-là. C'est jamais vraiment une limite. Il n'est pas question de récupérer des ressources parce que j'en manque, etc. Globalement, c'est jamais trop difficile. Mais il y a complètement un côté je donne gratos, juste pour aider quelqu'un d'autre quoi.
Tu parles de serveur, c'est pas un truc qu'on sent dans le jeu, c'est juste que ça se connecte sans qu'on ait...
Voilà, oui, c'est d'accord. Juste qu'en fait le jeu se connecte et on sent évidemment que... on voit direct sur la partie qu'on n'a pas des milliards de trucs qui popent dans tous les sens, donc forcément on sent direct qu'on est fragmenté en fait. Et c'est nécessaire, et c'était nécessaire parce que sinon ça aurait été n'importe quoi.
Ouais. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit de temps en temps dans certains jeux, évidemment Dark Souls, il y en a d'autres, je pense à Nier Automata, la fin qui évoquait un peu ça, il y a même dans des jeux comme Fire Emblem, il y a des moments, il y en a plein, bref, des jeux qui font un peu ça, mais là ça a l'air d'être un aboutissement là aussi de cette idée.
Ouais, je vais
du coup te poser la dernière question. Est-ce que l'histoire qui est très mystérieuse et qui fonctionne, ou l'imagerie artistique, est-ce qu'au final, je ne sais pas si je peux te demander, est-ce qu'on comprend, est-ce que tout fait sens, tous les trucs étranges qui sont lancés au début, est-ce que ça fait sens? Mais en tout cas, ce que je voudrais te demander, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que c'est satisfaisant au bout du compte? Ou est-ce qu'on a l'impression d'avoir fait une sorte de, je sais pas, de Lost, où à la fin on se dit, ah bon, tout ça pour ça, rien n'est expliqué, et ça laisse une petite frustration?
Moi, j'aurais dit un côté David Lynch, mais je vais me faire des...
Décidément, Iska, on est très en phase, ouais.
J'allais utiliser Lynch comme comparaison. Il y a clairement ça dans Death Stranding, c'est-à-dire qu'il faut accepter en se lançant qu'on ne va pas tout comprendre. C'est pas dramatique. Non, mais vraiment, c'est pas dramatique. C'est-à-dire que l'essentiel va être compris, mais il faut pas... les midi-chloriens de Star Wars, on va pas aller jusque-là, quoi.
Bien sûr, d'accord.
Il n'y avait pas besoin d'expliquer la force, De la même façon, il y avait des choses qui n'ont pas besoin d'explication dans Death Stranding, ou en tout cas, le récit n'en meurt pas s'il n'y a pas d'explication. Il faut accepter que, il n'y aura pas forcément toutes les clés en main, pas toutes les clés en main aussi, surtout sur le premier run. Moi, par exemple, j'ai hâte de refaire le jeu après l'avoir fini, pour relire d'autres choses et les comprendre différemment aussi.
Ton premier run, à peu près?
Moi, 60 heures.
Ah oui, quand même, d'accord.
60 heures, sachant que j'ai pas tout fini. que, comme d'habitude, quand je fais un test, je joue comme je jouerais pour moi, c'est-à-dire que je trace pas, je vais pas plus lentement, je fais un peu de tout. Je pense que j'ai fini à vue de nez les trois quarts du contenu du jeu, je dirais, vraiment à vue de nez.
Donc, pour quelqu'un qui veut faire que l'histoire principale et aller, on va dire, aussi vite que possible, sans rusher, mais...
Je crois que c'est 35-40, mais ça serait dommage. D'accord. Parce que le jeu a cette qualité aussi, il lit extrêmement bien le contenu, on va dire, avec des gros guillemets, principal et le contenu annexe. Mmh. Il t'amène vraiment une utilité dans les quêtes secondaires. Là encore, j'utilise des mots qui sont génériques, mais c'est pas vraiment des quêtes. Mmh. Dans le contenu annexe, en fait, il y a une vraie utilité à les faire, tant scénaristique qu'au niveau du gameplay. Il y a un vrai apport, il y a vraiment quelque chose à gagner dans le fait de les faire. Donc finalement, il t'amène très bien à les faire. Donc ouais, je dirais entre 40 et 60, peut-être même un peu plus, suivant comment tu le fais. Et je ne sais plus où j'en étais à...
Pour l'histoire, oui, on n'a pas toutes les clés, mais c'est quand même satisfaisant. Et on comprend ce qui s'est passé.
Et c'est un univers vraiment unique, qui a vraiment pas de truc comparable. Il y a vraiment rien qui est... On se dit, ah ouais, c'est un peu inspiré de ça. Non, c'est inspiré de rien, ça ne ressemble à rien. C'est vraiment unique et c'est surtout un jeu à moments. À très grand moment. Il y a, comme l'était les Metal Gear finalement, je pense, pour ceux qui ont joué, pour ceux qui ont aimé, c'est un jeu qui va laisser énormément de traces dans la mémoire des joueurs, parce que que ce soit visuel, comme tu l'as dit au début, ou des moments de gameplay, c'est souvent l'alliance des deux d'ailleurs, ou des moments narratifs aussi, il y a des trucs qui laissent vraiment des marques au fer rouge dans la mémoire, dans sa mémoire de joueur, quoi.
Oui, parce que là, toi et tous les autres que j'ai entendus tournent autour du pot et dansent autour du spoiler, mais il y a plein de choses, j'ai l'impression, dont tu ne peux pas parler parce que tu ne veux pas gâcher le plaisir des joueurs. Mais je veux dire, il y a vraiment des choses qui se passent, quoi. C'est ce que je comprends.
Il y a des choses qui se passent. Le truc que je peux dire sans spoiler, c'est sachez que ce que vous avez vu dans les trailers, à part peut-être dans le trailer de lancement qui vraiment était n'importe quoi. Globalement, ce que vous avez vu dans les trailers, c'est qu'une toute petite partie du jeu. Et que vraiment, il y a d'autres choses et il y a des trucs complètement fous en termes de mise en scène, d'idées de gameplay, de moments de jeu, vraiment de trucs qu'on fait « waouh ». Et vraiment, oui, il y en a en réserve. Et encore une fois, ça fait 60 heures, donc vraiment, il y en a. Et il y en a, que ce soit de manière très triviale, c'est-à-dire dans le quotidien, comme tu disais, le gameplay très terre-à-terre, le gameplay minute par minute, que dans le truc plus scénarisé, dans ce que va amener l'histoire, dans des grands moments plus attendus, etc. Il y en a vraiment partout, quoi. Donc voilà.
Bon, écoute, ça fait envie. Ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que Kojima a réussi une sorte de tour de force en se relégitimisant d'un coup à fond, en confirmant le génie que de nombreux joueurs lui attribuent depuis des années.
On a un peu oublié, en fait, je crois qu'on a un peu oublié à force de rire de ses facéties, de son aspect influenceur sur Twitter, de ses 4 films de cinéma par jour, de ses photos de bouffe et de tout le bordel qu'il a foutu en partant de Konami. Je crois qu'on a un peu oublié surtout que c'était un game designer génial, quoi, et que globalement, Metal Gear, on aime ou on n'aime pas, je pense que très peu de gens seraient capables de dire que c'est des mauvais jeux. Ouais.
Mais ce qui est vraiment fort, j'ai l'impression, c'est que là, il fait encore plus fort. J'ai joué une heure, donc je ne sais pas, mais de tout ce que j'entends, des impressions que j'ai, c'est qu'il fait encore plus fort qu'avec Metal Gear, parce qu'en plus de faire des choses intéressantes au niveau gameplay, il a cette inventivité artistique au niveau visuel, au niveau de narration. Que sans aller jusqu'à dire qu'on lui soupçonnait pas parce qu'il faisait des trucs quand même intéressants avec Metal Gear, mais là c'est un autre, comme tu dis, Metal Gear, on peut l'assimiler à des choses qu'on connaît, mercenaires, militaires, machin.
Oui, bien sûr, okay. Je vois ce que tu veux dire.
Là, c'est carrément des choses, enfin c'est de la science-fiction en plus de tous les éléments intéressants qu'il a accumulés dans sa carrière. Il fait des choses aussi intéressantes peut-être, et il ajoute une brique en plus, donc
il est sorti du carcan de Metal Gear qui était devenu un carcan pour lui. Il y avait vraiment une relation d'amour-haine entre lui et cette série, quoi. Il voulait absolument que personne d'autre la fasse, mais à la fois il voulait plus tellement la faire, bref. Mais sorti du carcan de cette série-là, ouais, du coup il a été obligé de poser tout un nouvel univers, et du coup c'était ça qui était pour moi hyper excitant à l'arrivée du jeu, c'est de savoir qu'est-ce qu'il allait faire après, quoi. Et de ce côté-là, vraiment, en effet, ça déçoit pas. Et juste, je voulais une parenthèse par rapport à avant de refermer le sujet sur l'histoire, c'est que du coup son côté fan de cinéma ou réalisateur manqué pour les mauvaises langues, mais se traduit là, en l'occurrence, dans le jeu par un casting 5 étoiles qui n'est pas inutile, en fait. C'est-à-dire que le casting qu'on a, donc on a Mads Mikkelsen, on a Norman Reedus, Léa Seydoux, Margaret Qualley, que des acteurs, voilà, vraiment des gros noms pour un jeu vidéo, et c'est ce qui pourrait être un petit peu superflu dans les mains d'un jeu, on va entendre, dans les lignes d'un jeu banal, on va dire, entre les mains de Kojima, ça devient vraiment une valeur ajoutée exceptionnelle, en fait. Mmh. Donc, et en plus, avec il y a une technologie de motion capture qui est assez ouf. Donc pour le coup, avoir ces gens-là dans la peau des personnages qu'il a taillé avec Yoji Shinkawa, qui est toujours là pour le chara-design des personnages, ça apporte vraiment quelque chose de plus à l'histoire et à tout ce qu'on disait sur les moments de jeu.
J'avoue que j'étais le premier à me moquer un petit peu gentiment de Kojima sur cet aspect réalisateur, il a envie, mais pas machin. Mais encore une fois, là, j'ai vu une moitié de film réalisé par Kojima en une heure et demie de jeu. Il y a tellement de moments, rien que dans cette introduction, où je me suis dit, mais ça, c'est tellement beau. Et pas juste beau, parce que le moteur de Guerrilla Games...
Decima.
C'est ça. Et beau, et c'est vrai qu'il y a une qualité graphique qui est indéniable au niveau technique, mais au niveau de la réalisation, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus admirable, quoi, pour ce type de production. Donc, ouais, non, il y a vraiment quelque chose... pour moi, en tout cas, on va voir, je vais continuer à jouer, mais j'ai l'impression que ça pourrait me retourner sur Kojima alors que j'étais vraiment pas convaincu.
Bah écoute, bon. C'est tout ce que je te souhaite. Ce qui est sûr, c'est que c'est un jeu, pour moi, à nul autre pareil, vraiment, mais qu'il faut savoir, avant de se lancer, qu'on prend un risque. Oui, c'est vrai, ça plaira pas à tout le monde, sachez-le, c'est pas universel, c'est pas Red Dead Redemption, c'est pas, voilà, c'est pas du tout ça. La proposition, elle est ce qu'elle est, et y a un risque de passer à côté, mais par contre, si vous passez pas à côté, il y a un truc vraiment complètement formidable à la clé, quoi. Mmh.
Bon, ça donne envie, Escarina, non? Je crois qu'il est difficile de se dire non, ça va pas plaire, mais...
Ouais, non, je suis carrément convaincue. Après, moi, ce que j'aimais pas trop dans Metal Gear Solid, c'était vraiment le gameplay, un peu infiltration, tout ça. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même assez loin de ça, même si t'évoques quelques...
Ouais, il y en a un peu, mais c'est vraiment pas...
Mais ne serait-ce que pour l'objet, je veux dire, artistique, avec des guillemets, c'est typiquement, tu vois, moi qui aime bien les jeux indés, etc., c'est typiquement le genre de choses qui m'intéresse. Là, on est sur le AAA, mais ça... voilà, je pense que je sais ce que je vais demander à Noël.
Je crois qu'il y a, une chose intéressante qui s'est passée entre l'année dernière et cette année, parce que tu évoquais, Florian, Red Dead Redemption, qui est le truc qui va plaire à tout le monde, alors que c'était quand même un jeu controversé,
le 2...
Oui, c'est ça, ouais, c'est que ça, c'est la deuxième fois qu'on a un triple A d'auteur, parce que Red Dead Redemption 2, c'était vraiment comme ça que certains l'ont défini, et moi le premier, c'est un jeu triple A d'auteur, c'est des gens qui se sont dit, je vais faire un truc comme je veux, et j'en ai rien à foutre de ce que vous voulez. Et là, j'ai l'impression
Red Dead Redemption 2, c'était vraiment pas le bon exemple, mais,
ouais, non, mais je veux dire,
les jeux Rockstar qui cartonnent énormément, voilà, que ce soit un GTA,
oui,
un truc comme
ou
ça...
Les... Tout à fait.
Et c'est vrai que Red Dead Redemption 2 était le contre-exemple, en fait.
Mais des triple A de ce type-là, Dieu sait qu'il y en a, et moi, il y en a plein que j'aime beaucoup. Mais là, c'est vrai que ça fait deux fois qu'on a des triple A qui sont des jeux indépendants, en fait, qui sont faits avec des budgets de triple A. C'est vraiment intéressant à voir, quoi. Peut-être
ouais, complètement. Complètement. C'est un truc vraiment que j'espère. Voilà, j'espère que les éditeurs. Sony en tant qu'éditeur, Rockstar de son côté, mais bon, Rockstar c'est assuré, vont pas trop se... Je sais pas du tout comment on va réussir un jeu comme Death Stranding en termes de vente, en termes commerciaux. J'espère juste que, quoi qu'il en soit, il y aura une chance pour cette proposition-là, et qu'on va pas juste se baser sur des chiffres et regarder et dire « Ah ben ça s'est pas bien vendu, on en refait plus. » Parce que...
Moi je crois qu'il y a pas trop de risques que ça se vende pas assez bien pour justifier...
Ouais, je suis assez d'accord. Moi je pense que de toute façon... étant donné qu'il y a écrit Kojima dessus, de toute façon, il y a au moins la moitié des fans de Metal Gear qui l'achèteront, donc ça fait tous, à peu près déjà 3 millions de galettes écoulées. donc, je pense qu'il y a un risque moindre, mais peut-être pour le prochain, voilà. J'espère juste que voilà, ce truc-là, même le parti pris de Red Dead Redemption, comme tu as dit, qui est différent, qui prend son temps, qui est lent, qui est machin, bah voilà, j'espère qu'il y a des boîtes AAA qui vont continuer de faire ça, quoi. Parce que c'est comme ça que ça avance, en fait.
Mais
pardon.
Vas-y, Eska.
Au final, ce qui est intéressant de voir, c'est que le jeu vidéo atteint une certaine maturité aujourd'hui qui, un petit peu à l'instar du cinéma, permet à des producteurs qui ont des vraies propositions, une identité différente à proposer, d'arriver comme ça avec des jeux avec des gros moyens. Et il faut espérer qu'on verra ça de plus en plus, et pas uniquement. C'est pour ça que je parlais du jeu indé, des jeux indés sur lesquels on a peut-être un peu moins peur de prendre des risques à ce niveau-là. Il faut espérer qu'on en voit plus, quoi.
Bah, j'ai l'impression que le doute est évidemment que le doute est permis, mais je suis pas convaincu qu'il y ait vraiment de bonnes raisons de s'inquiéter, parce que comme on le disait, bon bah Red Dead Redemption 2, voilà, c'est même s'il était particulier, il a quand même été acclamé par un bon nombre de joueurs et de critiques. Là, Kojima, j'ai l'impression que il réussit son pari.
Bon, dans ça le même fait paquet, deux. Je mettrais aussi Ancestors, qui n'était pas un triple A, mais il y avait la même mécanique de se servir d'un nom, en l'occurrence celui de Patrice Désilets, pour faire levier, pour proposer un truc complètement atypique. Bon, là, ça a été un peu moins efficace en l'occurrence. Ouais.
J'ai l'impression que justement, il n'a pas connu le succès.
Il n'a pas connu, mais c'était un peu le même levier. C'est, là, je pense que Kojima mise sur son nom pour proposer un truc complètement atypique, parce qu'il dit, en point de vue commercial, ouais, mais il y a mon nom qui va permettre de... Désilets avait fait pareil, et je trouvais ça, malgré le fait que ce soit raté dans l'exécution, dans l'intention, c'était hyper louable aussi.
Ouais. Oui, t'as quelques noms, même Peter Molineux ou des trucs comme ça.
Mais j'ai l'impression que justement, avec Molineux, c'était l'ancienne génération, et c'est des gens qui allaient un petit peu trop dans le pas dans le délire, mais enfin qui partaient dans leurs idées. Avec l'équilibre entre les idées d'auteur et l'importance du gameplay et du joueur était un petit peu déséquilibré. Là, Kojima, j'ai l'impression, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, comme tu le disais, Florian, c'est sa puissance de game designer qui est au centre de tout, et le reste est satellite. Mais il a vraiment, il perd pas de vue le fait qu'il fait un jeu avant tout, et que le jeu doit avoir son intérêt également. Et c'était le cas aussi dans Red Dead Redemption 2. Ensuite, on apprécie ou on n'apprécie pas la proposition, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un focus plus fort sur ce qu'est ce que doit être le jeu, avec des choses différentes.
Et puis on va dire, par exemple, à l'opposition à un Molineux qui a beaucoup bullshité, mais qui se basait surtout sur du gameplay, on va dire. Là, que ce soit Red Dead ou que ce soit Death Stranding, et dans une moindre mesure aussi Ancestors, il y a comme on disait tout à l'heure, il y a aussi une dimension artistique, il y a une dimension message aussi. Red Dead, c'est toute une relecture de l'industrialisation américaine, etc. Il y a une dimension à chaque fois. Alors, est-ce que c'est un hasard, est-ce que c'est un ou pas, mais il y a une dimension cinématographique importante dans les deux. Ça évolue un petit peu. Je suis vraiment curieux de savoir comment ça va continuer. Est-ce que par exemple on va filer les clés à des studios indés avec une grosse vision pour qu'ils fassent des jeux à plus gros budget, par exemple. Ça peut être aussi une évolution du truc. Donc, si ça peut établir une tendance, c'est vraiment ce qui fera avancer le média, quoi.
Là, on est à 2-3 exemples. Si on commence à en avoir un petit peu plus, ça fait une tendance, effectivement, et c'est intéressant. Je crois que je rejoins ce que disait Escarina. Je crois que on arrive à un stade de l'évolution de cette industrie où il y a des noms qui ont suffisamment d'expérience et de savoir-faire pour pouvoir s'imposer de manière un petit peu sûre. C'est-à-dire qu'on sait qu'on donne les clés à quelqu'un qui sait ce qu'il fait, et pas juste à quelqu'un qui est un artiste un peu fou ou un bullshitter professionnel qui va dire « Ah, mais moi, je vais te faire ça et ça ». Non, tu sais que c'est quelqu'un de sérieux, de professionnel, de la même manière qu'on peut l'avoir dans le cinéma. Il y a des gens qui sont des auteurs, mais dont tu sais qu'il va te faire un film au final, quoi. Tout le monde ne va pas forcément aimer, mais ça sera un film, pas un projet bizarre. Donc,
il y a un truc de mettre des sous dans un panier quand même un petit peu safe, quoi. Ouais. Donc, bien sûr.
Bon, bah écoutez, donc on en reparlera certainement de ce jeu, et en tout cas pour le moment, ça a l'air d'être plutôt une réussite. Je suis curieux de savoir si vous l'avez acheté et si vous avez commencé à le tester aussi. Sans spoiler, venez nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires de l'émission sur le site, c'est frenchspin.fr. On va continuer rapidement avec des impressions. Alors, on parlait de triple A classique. Bah, là, on est en plein dedans. Call of Duty Modern Warfare, qui est sorti il y a une dizaine de jours. comment dire c'est... Moi, j'ai joué quelques heures. La campagne solo doit faire 5 heures, donc ça reste des impressions, mais c'est Call of Duty, quoi. C'est Call of Duty, c'est un Call of Duty réussi, mais qui ne sort pas des jalons posés par la série, ce qui n'est pas surprenant, ce dont on ne devrait pas, lui demander autre chose, a priori. C'est hyper beau. Là encore, il y a certains moments où je vois les cutscenes et je me dis les visages et expriment quelque chose. Et c'est intéressant dans un jeu qui n'est pas vraiment basé sur la profondeur. C'est intéressant d'avoir des acteurs qui expriment quelque chose. Il y a une histoire qui se veut un petit peu plus subtile que ce qu'on a généralement dans les Call of Duty. Ouais. Parfois ça marche, parfois j'ai donné cet exemple ailleurs, il y a à un moment une attaque de terroristes sur Londres et au niveau gameplay ça se retranscrit plus ou moins bien. Il y a un moment où il y a suicide bombers,
des kamikazes
qui te courent dessus et si tu tires sur leur veste pleine d'explosifs, ça te met un message... Et c'est un moment vraiment violent parce que un moment fort parce que c'est au milieu de Londres, il y a des gens qui courent partout, qui ont peur, qui meurent. Enfin, et puis si tu meurs avec des kamikazes, t'as un petit message qui te dit attention, ce sont des kamikazes, ne leur tirez pas dans les vestes de bombes, tirez-leur plutôt dans la tête avec un petit signe de sécurité routière
et un pictogramme,
ouais. Bon, on n'est pas tout à fait au niveau de appuyer sur F pour vous recueillir, comme dans les précédents. C'est un moment mémorable de Call of Duty, et pas en bien. Mais bon, il y a des moments où ça n'atteint pas tout à fait son but. Dans l'ensemble, c'est une réalisation qui est assez impeccable. C'est un petit peu plus focalisé, on comprend un petit peu mieux l'histoire que dans les Call of Duty habituellement. Ça nous balade de terrain d'opération en terrain d'opération comme on a l'habitude dans ces jeux-là. Ça a l'air d'être un Call of Duty de qualité, mais ça reste Call of Duty. Donc voilà, je ne sais pas si ça en dit beaucoup à ceux qui sont intéressés par les impressions, mais c'est un bon Call of Duty, quoi, voilà.
Ouais, vas-y,
Eska.
Je voulais juste te demander si tu avais pu éprouver un peu le crossplay en ligne.
Non, je n'ai pas joué en multi, tu sais, j'étais entre la BlizzCon et les machins, donc j'ai joué un tout petit peu. J'avais testé la bêta du multi, mais bon, là encore, c'était l'impression... c'est Call of Duty. Et pour le multi, le crossplay, je crois que ça ne change pas grand-chose. Hein. Ils ne vont pas te mettre contre des gens au clavier souris, autant que possible.
Dans la mesure du possible. Chez nous, Pipo et Nodius l'ont notamment fait, parce que Pipo joue sur à la manette et Nodius joue clavier souris. En gros, le jeu, donc il y a bien du crossplay. Le jeu, dans la mesure du possible, fait tout pour te mettre face à ton équivalent, on va dire. Mais par contre, il arrive, pour des raisons X ou Y, que tu sois opposé à des joueurs clavier quand tu es à la manette et inversement, quoi. Donc, mais le jeu apparemment fait assez bien son taf en matière de matchmaking et il réussit pas trop mal ses matchs.
Ça, si c'est trop présent, je suis sûr que ça peut être patché. C'est pas un truc qui m'inquiète énormément. C'est frustrant quand tu tombes dans une partie et j'imagine que même si on n'a pas aujourd'hui, tu pourras mettre un paramètre ne me mettre que contre des gens qui sont aussi à la manette, parce que le problème, c'est ça, c'est que, oui, voilà, tu peux mettre ça, et bon... Mais bon, au-delà de ça, le jeu est un Call of Duty qui a bien évolué sur le niveau multi, d'après ce que je comprends, au cours des années, parce que moi, j'en avais pas touché depuis longtemps, mais bon, là encore, ça reste Call of Duty, quoi.
Apparemment, c'est un très bon, c'est une très bonne cuvée en termes de multi, d'après notre expert maison.
Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi.
Et en termes de solo, moi, je prendrais le temps de le faire un petit peu plus tard, notamment j'aimerais bien me pencher un petit peu sur les messages de Call of et ce qu'il y a derrière en fait le solo d'un jeu qui se vend à des millions et des millions et des millions d'exemplaires. Celui-là en l'occurrence essaye de partir dans un truc apparemment un petit peu plus la guerre point de vue humain, mais en même temps comme tu l'as très bien dit ça ludifie des trucs, coller des balles dans la tête au lieu de viser les ceintures, ça met des armes dans les mains de gamins et de femmes aussi dans certains niveaux. Oui. Donc
enfin de femmes c'est pas tellement un problème, mais il y va un petit peu aux chausse-pieds, tu
de
sais
civil,
ces
en
gens
cas. De civil c'était
oui de tôt. Civil c'est pas, oui
mon propos c'était ça.
Ouais, je comprends. C'est, disons qu'il y va un petit peu aux chausse-pieds. Il y a un pays fictif de l'Urzikistan, un truc comme ça. Et c'est un petit peu genre, oh regardez ces gentils rebelles qui se battent contre les méchants russes qui ont envahi leur pays et qui n'aiment pas non plus les terroristes. Hein, attention. Et bon, c'est un petit peu aux chausse-pieds. C'est pas trop mal fait, mais c'est pas très subtil. Il y a aussi des moments où, par exemple, tu joues des membres de l'armée de l'air qui arrivent en hélico de combat et qui vont tirer sur les cibles que tu leur as indiquées, donc les méchants, l'armée des méchants russes qui arrivaient. Et j'imagine qu'ils le font comme ça parce qu'ils sont désensibilisés à ce genre de choses, mais tu as les dialogues du genre... tu vois, t'envoies une série de missiles sur les gars qui sont en bas que tu vois en noir et blanc, et c'est genre ouh, on les a bien eus.
Ouais, il y a une dissonance toujours. Ouais, bah oui, bah, ça c'est le problème des.
Bah le truc c'est que je peux tout à fait imaginer, je sais pas, mais je peux imaginer que ça se passe comme ça dans la vraie vie, dans l'armée, tu vois, parce que c'est, je sais pas, c'est leur boulot, ils ont l'habitude, c'est, j'en sais rien, mais. Peut-être que c'est intéressant justement de montrer comment ça se passe vraiment, c'est possible. Et là, ça aurait à la limite une valeur pas forcément artistique, mais presque de journalistique presque. Mais c'est quand même un petit peu... disons que si c'est pas vraiment comme ça que ça se passe, c'est d'un goût douteux. Si c'est comme ça que ça se passe, ça reste choquant pour les joueurs, mais c'est intéressant.
Et bah, bon. ça manque de nuances quand tu passes, disons quand tu passes derrière un Spec Ops par exemple qui avait la bonne idée de poser la question de l'impact sur le soldat mais aussi sur le joueur en fait d'appuyer sur la gâchette. Bah, c'est vrai qu'arriver derrière dans des jeux hyper bas du front de ce point de vue là c'est ignorer tout un truc, que ce soit les syndromes post-traumatiques, que ce soit des productions cinématographiques comme Jared, comme des choses comme ça. Je pense que c'est hyper premier degré et que,
bah, et en que l'occurrence
clairement de zone de gris quoi.
C'est l'impression que j'ai eue, j'ai fait la moitié de la campagne solo, il n'y avait aucune subtilité là-dedans. Ouais. Peut-être que ça change après, mais oui, on n'est pas du tout ni dans un Spec Ops, ni dans quelque chose qui étudie ça, alors que c'était un petit peu, c'était pas tout à fait la promesse, mais ils avaient l'air de dire, on va montrer la guerre telle qu'elle est, ils avaient l'air d'insinuer qu'il y aurait quelque chose de plus. Moi, ce n'est pas l'impression que j'ai eue sur ces premiers moments. Mais bon, ça reste un bon Call of Duty, quoi.
Pas sûr qu'ils sachent faire.
Ouais, c'est le problème. Enfin, bon, Escarida, on t'a un petit peu bouffé la parole. Est-ce que toi, tu disais, t'as aussi discuté un petit peu de Call of avec tes amis qui avaient l'air d'être satisfaits de l'opus ?
Oui, assez emballé. On a discuté comme ça un petit peu du crossplay. Non, ils ont l'air plutôt contents comme vous. Ils disent que c'est plutôt un bon millésime. Après, moi, je suis plus Team BF, donc du coup, je suis passée un peu à côté.
Ouais, je peux comprendre. Mais c'est ça qu'il faudrait en retenir, je crois, c'est que c'est un bon millésime, mais ça ne ramène pas l'intérêt de la série au niveau des premiers Modern Warfare, qui étaient pour le coup, eux, des vrais coups de poing dans ce que voulait dire le AAA de jeu de tir à l'époque. Évidemment, les jeux ont évolué depuis, mais on n'a même pas le quart d'une évolution comparable ou d'un achievement comparable, quoi. Bon, parlons un petit peu de news rapidement. On a fait long sur les jeux qui en valaient le coup. La première chose dont je voudrais parler, c'est cette annonce de Blade, que vous connaissez comme fabricant et éditeur du service Shadow, le PC à louer à distance. Alors, j'en ai parlé à différentes reprises au cours des années pendant mes tests. Là, mon dernier passage à Paris, j'ai retesté le PC streamé de Shadow et je reconfirme que si on a une connexion qui tient la route, c'est absolument bluffant de qualité. Ils ont beaucoup amélioré l'interface, les fonctionnalités du truc, et aujourd'hui, ça me semble être une alternative techniquement vraiment convaincante. Alors évidemment, comme on le dit à chaque fois avec tous ces sujets, ça ne sera peut-être pas 100% de ce que vous avez quand vous avez une machine locale, parce qu'il faut quand même streamer l'image et envoyer les commandes. Mais franchement, je mets au défi qui que ce soit qui le teste dans des conditions réelles, avec une connexion fibre, de dire que ça ne marche pas. Franchement, c'est mon expérience, cette fois-ci, m'a complètement convaincu que non seulement ça marche, mais en plus ça marche bien. Et plus intéressant que ça, Shadow a annoncé une nouvelle offre avec une réduction de prix vraiment conséquente, c'est-à-dire qu'on est à 12 ou 13 à 15 euros en fonction du type d'abonnement qu'on choisit aujourd'hui pour une machine qui intègre une carte graphique RTX 2080, plus ou moins, donc carte graphique qui est capable de faire du ray tracing, pour ce prix-là, donc qui est la moitié du prix auquel elle était avant. Pardon, le prix pour la carte graphique en question, c'est 30 euros par mois. Donc, on est un petit peu au-dessus. Ouais,
et excusez-moi. Une offre à 15 euros.
Alors, il y a une offre à 15 euros par mois sans engagement ou 12,99 €, enfin 13 euros avec engagement, qui est l'offre actuelle, c'est-à-dire avec une 1080, ce qui est quand même pas mal du tout. Donc, c'est une bonne machine de jeu. L'offre supplémentaire est à 30 euros et là, on a une RTX. C'est le prix auquel était l'offre aujourd'hui en abonnement avec engagement, mais sans engagement. En tout cas, en gros, le prix pour cette offre améliorée est moins cher que ce qui existait jusqu'à maintenant. Il y a une autre offre dont on n'a pas vraiment besoin de parler, qui est encore plus chère, mais dont personne n'a vraiment besoin. L'offre Ultra à 30 euros qui va arriver, donc les deux offres en question vont arriver en février. Pour la première, à 15 euros par mois, sans engagement, je pense vraiment que c'est quelque chose d'intéressant, sachant que ça vous donne un PC avec une licence Windows, et après vous en faites ce que vous voulez. Il va y avoir une interface pour l'utiliser sur les box télé, sur les téléphones, sur les tablettes, de manière à streamer les jeux que vous voulez, les jeux que vous avez. Alors évidemment, il faut acheter les jeux à côté, et c'est une option, et vous pouvez même faire d'autres choses, hein, sur votre PC Shadow, vous pouvez mettre des logiciels de montage, des trucs, enfin ce que vous voulez. C'est une option qui devient intéressante à considérer. Jusqu'à maintenant, c'était presque une preuve de concept. C'était pour montrer que ça marchait. Là, l'offre commerciale peut devenir intéressante dans certains cas. Pas pour tout le monde, mais dans certains cas. Et encore une fois, moi, mon test avec une fibre de qualité, c'est que ça marche super, super bien. Je ne sais pas si vous avez testé ce genre de choses, si vous avez eu l'occasion. Esca, non, t'allais dire quelque chose.
Alors,
excuse-moi.
Encore, je voulais juste savoir dans quelles conditions tu l'avais testé. Tu dis que tu l'as testé avec une fibre, mais c'était chez quelqu'un, sur un salon
ou... Ah non, chez moi, fibre Orange à la maison à Paris. Alors je suis au cœur de Paris, donc la connexion est bonne, mais avec la fibre, la latence est toujours faible. Mais oui, donc c'était vraiment chez moi en conditions réelles. Hein. C'était pas testé chez eux, quoi.
Alors moi, pour tout te dire, il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec Fox Monsieur, que tu connais sûrement, Franck Extenazier, de changer mon PC. Je suis en pleine réflexion, là, j'ai une machine qui commence à dater. Donc il m'avait fait des configs très sympas, puis je suis revenu vers lui plusieurs jours après en lui disant « Bah écoute, il y a Shadow qui vient de publier ses offres. » Et je te cache pas que je suis hyper, hyper curieuse. Je suis vraiment très tentée de passer à leur offre. Alors moi, j'ai pas encore la fibre chez moi, mais ils conseillent une ADSL minimum de 15 mégas par seconde pour passer chez eux. Ce que j'ai largement, et j'ai un pote qui est chez eux, qui les suit depuis, qui est un de leurs tout premiers bêta testeurs, qui m'a proposé de me prêter gentiment son compte ce week-end pour que je puisse tester chez moi en conditions actuelles avec mon ADSL actuel ce que ça va donner. Mais je suis vraiment en train de me dire que je risque de passer chez eux, ce qui il y a un an n'était pas vrai du tout. J'étais
Le prix, le prix change beaucoup. Je dirais qu'il faudrait, à 15 euros par mois, ça vaut le coup de tester pendant un mois. Sachez que le disque dur est de taille très réduite pour ce prix-là. Il faut quand même ajouter un petit peu de sous pour augmenter la taille du disque dur. Donc ça, c'est à garder à l'esprit. Mais 15 euros dans le mois, tu fais le test avec ta connexion ADSL. À mon avis, le problème avec la DSL, ça va être la latence plutôt. Donc, un jeu qui va nécessiter une connexion un petit peu réactive risque de poser problème. Mais à tester, tu reviendras nous dire ce que tu en auras pensé. Mais à tester, 15 euros par mois, tu testes un mois, tu vois ce que ça donne. Et ça peut être une alternative pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser 1000 ou 1500 euros dans un gros PC, quoi.
La seule chose sur laquelle je reste sceptique, c'est le hardware, là, leur petite Shadowbox. Là, je suis un peu plus frileuse, donc à voir avec les utilisations.
Bah, disons que ça, c'est une box qui te permet de te passer d'avoir un PC ou un Mac à connecter à ton ordinateur, à connecter à ton écran, juste pour faire passer le signal de Shadow. C'est pas forcément nécessaire. Moi, ça marche très bien avec mon Mac. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Florian, pardon ?
Non, j'allais juste terminer en disons que ça fait de la place sur le bureau. Je me dis que si je passe à une offre complètement dématérialisée comme celle-là, j'aurais tendance à me débarrasser de ma tour pour juste avoir un petit boîtier, quoi.
Possible, donc... T'as eu l'occasion de tester, Florian, ou pas du tout, ce genre de choses ?
Alors oui, mais j'ai gardé le silence un petit peu volontairement parce qu'il se trouve que j'ai bossé quelques semaines pour Shadow, quelques mois même.
D'accord.
Oui, tout à fait, avant de rentrer chez Gamekult, dans l'édito en fait, tout simplement. Et donc du coup, je préférais rester en retrait de ce point de vue-là, mais, mais je l'utilisais déjà avant en tant que journaliste et... c'est un truc qui fonctionne plutôt très bien. En effet, la question de la connexion, c'est sur la latence que ça va influer. Et on peut descendre assez bas, globalement. Alors, je sais pas, ils annoncent toujours connexion 5 mégas. Moi, j'ai bif bof. Mais disons, entre 10 et 15 mégas, on peut déjà faire tourner... on peut déjà avoir un rendu tout à fait fluide, sans latence. Mmh. Ils ont vraiment bossé de ce côté-là. Et pour ce qui est de la Shadow Ghost, donc du boîtier, déjà, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont disponibles. Ils les font en très petite quantité, donc je ne suis pas sûr qu'elles soient actuellement disponibles. Et ça fonctionne relativement simplement, et tu n'as pas trop à t'inquiéter pour le coup, parce qu'il n'y a vraiment rien dans la boîte, en fait. C'est presque un Raspberry, en fait. C'est un truc...
qui te fait passer la vidéo et qui envoie...
Si t'as envie de le mettre sur juste ta télé, en fait, plutôt que si t'as pas de PC ou un truc comme ça, si t'as envie de juste te mettre ton Shadow sur ta télé, en fait, tu branches un câble HDMI au cul, tu branches une manette USB et rideau, quoi. C'est vraiment un tout petit device, en fait.
Mais, c'était plus la connectique qui me...
Non, la connectique, elle est vraiment toute banale. C'est un objet vraiment assez bien fichu, hein, mais c'est vraiment tout simple. Pour le coup, donc il y a même pas de ventilo dedans, donc c'est vraiment un truc hyper stable, on va dire. Ouais. Et pour ce qui est de leurs nouvelles offres, écoute, à voir. Je pense que c'est en effet un premier, on va dire, qui passe la vitesse supérieure là avec ça. À voir si avoir une 2080 montée. Je pense qu'ils vont avoir du succès sur l'offre à 15, je pense.
Ouais.
Qui est intéressante d'un point de vue...
C'est ça. Moi, je vais être curieux de voir ce que ça donne avec le ray tracing, parce que j'ai pas de carte ray tracing, et du coup, ça va me permettre de le tester sans avoir en acheté une, ce qui est la promesse de ce genre de technologie. Et d'ailleurs, il parle aussi de réalité virtuelle avec l'Oculus Quest en streaming, ce qui semble... marcher pour les gens qui l'ont testé. Là, je suis un petit peu plus sceptique, mais ce qui était intéressant dans mon expérience, j'ai joué évidemment à Overwatch, mais ce qui était intéressant, c'est que depuis les serveurs Shadow, j'avais une connexion au serveur d'Overwatch de genre 20 millisecondes, ce qui est la moitié de ce que j'ai depuis chez moi généralement, parce qu'ils ont optimisé leur connexion de peering. Et de chez moi, j'avais une connexion de 3 millisecondes ou 4 ou 5 millisecondes max au serveur de Shadow. Ce qui fait qu'au total, j'avais une connexion de 25 millisecondes à Overwatch, alors que de chez moi, j'ai généralement 40 millisecondes. Ce qui est quand même bizarre, c'est-à-dire que j'avais moins de latence théorique en me connectant par Shadow qu'en me connectant de chez moi directement. Donc ça, c'était marrant.
Ça arrive, il arrive que des fois, la latence soit même inférieure sur Shadow que sur un PC monté. Bon, après voilà, il y a vraiment toute une gamme de situations, en fait. Ça va vraiment être du cas par cas, ça va vraiment varier énormément, donc ça va même varier en fonction des jeux, etc. Donc voilà, petite précision, je crois que nous on a regardé il y a quelques jours, je crois qu'ils ont bloqué les offres probablement temporairement, parce que je pense qu'ils ont eu un afflux.
Ah zut, d'accord.
Ouais, alors à revoir, si vous écoutez l'émission, allez jeter un œil, regardez, mais nous on avait été jeter un œil il y a quelques jours, et je crois qu'ils ont fermé juste les shops pendant quelques temps, bon. J'imagine.
Eh bien écoutez, c'est sur shadow.tech, et puis on continuera à suivre ça, de toute façon ça n'arrive qu'en février, ces nouvelles offres. Voilà. Puisqu'on parle de streaming, il semble que Steam soit en train de travailler à une offre de streaming également, ce qui est, décidément, tout le monde se lance dans cette bataille, mais pourquoi pas, ça serait cohérent, c'est-à-dire que si on peut acheter les jeux sur Steam et qu'on peut non seulement les installer, mais aussi les streamer sur n'importe quelle machine, ça pourrait être tout à fait cohérent comme offre. C'est un addendum à leur contrat avec les partenaires qui aurait été repéré par Steam Database, qui est un site qui espionne ce qui se passe chez Valve. Oui, ça serait quelque chose de tout à fait cohérent. Et d'ailleurs, il semble aussi qu'ils soient en train de travailler avec Apple au casque de réalité augmentée, pas virtuelle, d'Apple. Donc bon, ça c'est à la limite un sujet à part. Mais oui, du stream pour Steam, ça rentrerait complètement dans les tendances et la logique du moment, quoi. Oui, si vous avez rien d'autre à ajouter là-dessus, c'est assez self-explanatory, comme on dit. Un mot pour signaler qu'il se passe plein de choses du côté de chez PlayStation, plein de changements, et que du coup, je ne suis plus très bien tout ce qui se passe dans les noms. Shuhei Yoshida est parti, a quitté Worldwide Studios, et c'est Herman Hulst, qui était chez Guerrilla Games, justement, qui est venu le remplacer. Ce n'est pas le premier des changements dont on entend parler chez Sony et chez PlayStation, mais Oscar Le Maire, notre ami, a fait un petit thread assez intéressant sur Twitter où il pointe du doigt à quel point le management de Sony et de PlayStation surtout est en train de s'américaniser. Même si c'était déjà le cas avant, il y avait beaucoup d'Américains qui étaient adoptés du Japon, on va dire, qui avaient trop longtemps travaillé au Japon, qui parlaient parfaitement bien japonais. Là, c'est un petit peu moins le cas. Donc, bon, ça a connu le succès, ça leur a permis de rencontrer le succès ces dernières années. Donc, il n'y a pas de raison de s'arrêter, mais c'est intéressant à noter quand même. En tout cas, il y a beaucoup de nouveaux noms au sein du management de PlayStation.
Ouais, il y a pas mal de... là, par contre, j'ai des trucs à dire, pardon.
Vas-y.
Non. Ouais, il y a pas mal de changements. Donc, il y avait Sean Layden qui est parti. Shuhei Yoshida ne part pas. Alors, il est parti de la tête des Worldwide Studios, mais finalement, on lui a confié la responsabilité de tous les studios indés qui vont être liés à Sony.
Ouais, ça ressemble quand même un petit peu à un reclassement parce qu'il faut le mettre quelque part. Je me trompe peut-être.
De toute façon, il avait déjà pris du recul depuis un an et demi. Voilà. Les sources, en effet, alors Oscar...
Il a peut-être envie de se reposer aussi, hein, c'est possible.
Oui, après, c'est des postes qui sont cycliques, hein, c'est pas nouveau non plus, il y a souvent du mouvement à ce genre de poste-là. Là, c'est un petit peu marqué chez Sony parce que ça arrive tout en même temps, parce que ça arrive juste avant la PS5, et parce qu'en effet, pas mal de sources, chez nos confrères américains notamment, évoquent une espèce de prise de pouvoir de PlayStation, enfin de Sony US, en effet. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelques... Donc hier, je crois, il y a Jim Ryan, donc le boss de Sony Interactive, qui lui pour le coup est britannique, donc qui est anglais, qui a dû s'exprimer sur la question de la globalisation, puisqu'en fait Sony a allumé tous les feux verts à tous les signaux d'une boîte qui est en train d'unifier absolument tout, que ce soit les messages, que ce soit le marketing, que ce soit la pub, les sorties de jeux, etc. Et comparé à il y a quelques années, ou il y a encore quelques mois, où c'était sa pluralité qui faisait sa force, c'est-à-dire il y avait Sony Japon, il y avait Sony US, il y avait Sony Europe, les approches étaient différentes, les jeux proposés aux différents marchés étaient adaptés aussi, les publicités, les packaging des consoles, enfin plein de choses en fait. Et forcément, quand on a un peu le nez dans le secteur du business, on se dit tiens, c'est curieux, et est-ce que c'est vraiment judicieux, quoi ? Parce que c'est ce qui faisait la particularité de Sony, notamment le poids du Japon. Hein, dans la marque, quoi. Donc c'est très étrange. Alors pour le moment, Jim Ryan a botté un grand coup en touche et une très longue interview sur Games Industry où il dit oui mais non, mais on globalise, mais en fait on va quand même garder les particularités pour chaque marché, patati patata. Ça trahit un peu une espèce de flip de ce qui vient après, quoi, notamment de l'arrivée de Google sur le marché. Ils ont l'impression de devoir répondre par un canal voilà, bien clair, bien unifié, bien droit, où les messages s'éparpillent pas. Donc à voir, je trouve que c'est particulièrement risqué, sachant que c'est l'inverse qui les a menés sur le toit du monde. Quoi.
Moi, je dirais que dans des industries où justement l'immobilisme et le reposage sur ses lauriers a tendance à mener au dégagisme, justement, c'est peut-être pas une mauvaise chose qu'ils se mettent à faire bouger un petit peu les lignes. Je sais pas, mais l'avenir nous dira si c'était une bonne idée ou pas. Mais
disons que voilà, au moins ils tentent un move. Ok, très bien. On va voir.
Je peux tout à fait imaginer qu'une société comme Sony, qui justement était un petit peu austère, qui fonctionnait bien, mais qui était un peu sur des rails, je peux tout à fait imaginer justement qu'à un moment où Microsoft revient en force avec une stratégie hyper intéressante et les lignes de l'industrie sont en train de bouger, j'aurais tout à fait pu imaginer que justement ça leur porte préjudice. Donc peut-être qu'ils ont identifié des faiblesses dans leur organisation et qu'ils essayent d'y remédier, quoi.
Ouais, il y a une question de réactivité, même de proactivité, je pense. C'est ce que
c'est ça. C'est... Non, mais exactement.
C'est,
ouais.
c'est on essaye d'anticiper, machin. En effet, c'est une réaction. Est-ce que c'est la bonne
Ça.
C'est une bonne question. Parce que déjà, en termes de ligne éditoriale, notamment, Microsoft, c'est une ligne très américaine déjà. Même si on en discutait avec les collègues il y a quelques temps encore, c'est aussi une boîte qui sait promouvoir les indés, etc. Il y a aucun problème. Mais dans ces gros jeux, dans ces jeux first party, etc., c'est encore une boîte qui a ce côté très ratapoum, pam pam boum boum, grand spectacle, etc. Que Sony n'avait pas. Sony a quand même une espèce de ligne un petit peu narrative, un petit peu émotionnelle sur certaines de ses sur pas mal de ses productions, même sur les plus grosses, type Naughty Dog, etc. Voilà, je sais pas si le fait que le potentiel que les Américains prennent le pouvoir au sein de Sony, ce soit quelque chose qui me plaise énormément.
Parce que mine de rien, c'est vrai que ça peut inquiéter.
La facette japonaise c'était quand même la facette japonaise de la boîte qui en faisait aussi quelque chose d'intéressant.
Disons que j'ai du mal à imaginer que même les Américains aujourd'hui oublient la force que leur amène leur côté japonais et même leur côté européen, parce que certains de leurs plus gros succès viennent de l'Europe et évidemment du Japon. Mais bon, oui, à voir.
Après, voilà, juste dernière chose qui est intéressant par rapport à ce que tu as dit, c'est que c'est le boss de Guerrilla Games qui prend la tête des Worldwide Studios. Donc ça, c'est quand même pour dire, ok, on américanise, mais c'est un studio européen. Pays-Bas, tout à fait, c'est les Néerlandais qui prennent les rênes des studios Worldwide. Et ça, c'est assez intéressant, notamment aussi dans la dimension guérilla, c'est des Tecos. C'est des gens donc, notamment qui ont fait le moteur Decima qui sert sur Death Stranding. Et je pense qu'on peut deviner peut-être un début de quelque chose quant à l'unification peut-être autour d'un moteur, comme l'a fait par exemple EA avec le Frostbite.
Ça leur a joué des tours, ça. Je sais pas si c'est forcément.
Je sais pas si c'est une très bonne idée non plus, mais voilà. Enfin, il y a. C'est intéressant. Il y a des trucs à observer. C'est à la fois intéressant, inquiétant, peut-être. Voilà.
Tout ensemble.
Ouais, un peu tout ensemble. Ça pose des questions en tout cas.
Eska, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, j'écoute attentivement. C'est vrai que c'est très intéressant. Après, moi, je suis un petit peu moins intéressée par ces aspects politiques, mais on sait tous que ça peut influencer grandement ce qui va se passer sur une marque et sur les produits sur les années qui viennent. Donc là, sur une marque comme PlayStation, c'est sûr qu'avec la PlayStation 5 qui sort l'année prochaine, on peut se poser des questions sur plein de choses. Donc, je vous écoute religieusement, mais j'ai pas grand-chose d'intéressant à apporter au débat.
Ben, c'est sûr qu'on sent le bas de combat, on va dire, de tous les côtés d'ailleurs, pour la sortie des nouvelles générations, y compris d'ailleurs en France avec la nouvelle, je vais pas retrouver son nom, la nouvelle présidente de Xbox France qui était présente à la Paris Games Week, Ina Gelbert.
Gelbert, voilà, exactement.
Bon, quelques petites news pour conclure que je vais évoquer rapidement. Il y a encore des streamers qui ont été poachés de chez Twitch pour aller chez Mixer. Il y en a maintenant, ça doit faire 4 ou 5 depuis le débauchage de Ninja. C'est intéressant à voir et on se demande ce que ça peut vouloir dire pour la stratégie de Microsoft sur la Xbox Scarlett, mais on en saura plus tard. Mais c'est intéressant de voir que les plus gros sont en train d'être débauchés par Mixer. Je me demande si ça va conduire Twitch à réagir, parce que si les gens grossissent sur Twitch et puis vont ailleurs, je pense que ça leur convient pas forcément. Peut-être qu'ils vont changer leurs conditions et leurs relations avec leurs gros streamers. EA semblerait être en train de faire un partenariat avec Steam pour leur EA Access, leur service d'abonnement. Alors ça veut dire que les jeux EA reviennent sur Steam, ou en tout cas à l'avenir ils reviendront sur Steam. Ils n'y seront pas tous, parce que certains ont été développés pour Origin, mais ils reviennent sur Steam, et il y aurait un accord pour l'abonnement de EA. Donc là encore, on est en plein dans ce monde de stream, d'abonnement, etc. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de EA, Chad Robertson, qui était en charge de Anthem, et a quitté l'équipe de Anthem. Donc décidément, je ne sais pas ce qui va se passer avec ce jeu, mais le naufrage continue.
Il va dans le mur, je pense.
Ouais, j'espérais qu'il puisse le ressusciter dans un an, mais là, je me demande vraiment, quoi. Parce qu'il y a une base intéressante sur Anthem, mais bon, bref.
L'ami Gotos espérait aussi, mais sans grand espoir, et je pense que ce départ va pas le... Elle va le conforter dans ses idées.
Ouais, c'est ça. C'est que, mais il y a un cœur qui est tellement intéressant à sauver sur Anthem. Et je me disais, c'est pas possible, ils vont pas le laisser à l'abandon. Mais plus ça va, plus on a des annonces, plus j'ai l'impression que bon.
Et puis plus le taf est gargantuesque, en fait. Le repêcher ça, c'est, même si le noyau est bon, c'est quand même un taf. Ouais. Il faut refaire un jeu, quoi. Ils sont en train de refaire un jeu, et c'est avec le temps qui passe, les sorties d'autres jeux qui s'accumulent. Je crois que je me demande si à un moment EA va pas dire bon allez.
C'est terminé, Il y a un espoir, c'est qu'il soit dit, on ne va pas communiquer dessus tous les trois mois, on va bosser tête baissée pendant un an et demi, et puis on reviendra à un E3 avec une grosse annonce, genre on a tout réparé.
Ça, c'est ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit, on fait un peu silence radio en attendant d'avoir vraiment du concret, parce que sinon, les gens sont déçus. Donc, c'est ce qu'on peut espérer, en effet.
Ouais. Bon, et puis dernière chose, ça va pas très bien chez Ubisoft. Ghost Recon Breakpoint notamment a pas répondu aux espérances, mais ils vont continuer à travailler dessus. Ils veulent mettre du cross-platform dans tous leurs jeux, selon Yves Guillemot. Et puis ils ont des plans pour continuer à développer les choses. Et je sais plus si on en avait parlé, mais à la fois Watch Dogs 3 et quel autre jeu, je sais plus, ont été décalés parce qu'ils veulent leur laisser le temps d'arriver à maturité. Ce qui est une bonne chose, mais ça veut dire que cette année n'est pas exceptionnelle du côté de chez Ubisoft. Donc voilà, il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais on va s'arrêter là parce qu'on a déjà fait assez long, et on a gardé Florian, on l'a empêché d'aller manger son sandwich bien trop longtemps.
Non, mais c'est pas grave.
Mais on le remercie quand même très chaleureusement d'avoir été avec nous et d'avoir partagé son avis et ses compliments sur Death Stranding. Donc un grand merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet?
Sur les internets, GameCult, GameCult.com tout simplement, le perfil d'Albion, et puis sur Twitter, si jamais vous êtes de ce réseau-là.
Je mettrai le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission. Eska, qu'en est-il pour toi ?
Alors moi, c'est toujours sur Twitter, Eskarina_, et puis sur KissMyGeek ou SuperGamerside, si vous écoutez des podcasts jeux vidéo autres que le rendez-vous jeu. Voilà.
Merci beaucoup Eska. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. FrenchSpin.fr pour les notes de l'émission et pour laisser des commentaires si vous avez à nous en faire. Et bien sûr, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. On a des récompenses sympathiques, des objectifs intéressants également. Et puis surtout, le plaisir et la fierté de soutenir cette émission qui vous distrait, qui vous intéresse, j'espère, qui vous amuse, qui réunit un panorama immense de la scène vidéoludique francophone, ce qui n'est pas facile à faire, ce qui demande beaucoup de travail. Donc, si vous écoutez depuis un moment, si vous appréciez l'émission, si elle vous fait sourire quand vous voyez que vous en avez un épisode dans votre app de podcast, patreon.com/rdvjeux, vous pouvez soutenir l'émission, ça nous fait très plaisir et ça nous permet de continuer à la développer. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao à tous !